c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Vous êtes bien sur France Inter, il est 9h40 et je vous accueille bras ouverts dans l'instant M.
On regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Tu veux me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles.
Il n'y a pas d'empire numérique sans des millions de bons petits soldats humains qui serviront de chair à canon. Et même, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans le travail acharné, précaire, répétitif et invisible d'hommes et de femmes qui sont là pour apprendre aux machines à devenir chaque jour plus performantes. Il y a un grand ouvrage de référence sur le sujet, celui du chercheur Antonio Casilli. Ça s'appelle « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic ». Seulement voilà, c'est très costaud à lire. Alors pour comprendre, pour voir ces gens qui existent bel et bien partout dans le monde, ces prolétaires de l'économie digitale, regardez Cash Investigation ce soir. Ou comment les géants du web inventent de nouveaux métiers et piétinent le droit du travail dans le monde entier.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Tout l'intérêt d'Internet et des nouvelles technologies, c'est que vous pouvez embaucher quelqu'un très facilement, le faire bosser pendant 10 minutes, le payer une misère et le virer quand vous n'en avez plus besoin.
Il est tout jeune diplômé de Stanford, ce monsieur, et on vous rassure, il réussit à merveille dans la Silicon Valley. D'ailleurs, il déteste que Cash Investigation lui parle de la réalité du travail, c'est-à-dire ce qu'on gagne et les efforts qu'on doit fournir. Bonjour Sandrine Rigaud.
Bonjour.
C'est vous l'enquête de Cash Investigation ce soir. Mon patron est un algorithme. On va en parler dans un instant, toutes les deux. Mais d'abord, je vous propose, en ouverture de cette émission, de poser trois questions à Yves Corteville, qui est délégué CNJ-CGT, qui travaille pour le magazine Pleine Vie. Yves Corteville, vous m'entendez ?
Je vous entends.
Eh ben, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans cette
Bonjour.
Émission. Je vous passe un petit coup de téléphone ce matin parce que depuis le 31 juillet, ça y est, c'est fait et c'est irréversible. Le groupe Reworld Media a avalé tous les titres de presse français de l'éditeur Mondadori, c'est-à-dire Autoplus, Pleine Vie, votre journal, Gratia, Closer, Le Chasseur Français, Science et Vie, bref, ça fait une trentaine de titres, voilà. Vous vous êtes battu avec d'autres représentants du personnel pour tenter de faire échouer cette vente. Pourquoi ? Parce que vous aviez prévu ce qui est en train de se passer et ce que mon confrère Jérôme Le Filiatre de Libération a bien raconté ce week-end. C'est une hémorragie, c'est une hémorragie. Tous les journalistes sont en train de quitter ce beau navire de presse française.
Bon, tous peut-être pas. Hein. C'est vrai que c'est le cas dans beaucoup de rédactions.
Oui.
Il y a certaines qui résistent un peu, comme Science et Vie, parce qu'ils ont une forte spécificité et ils se sentent moins facilement attaquables vu leur qualité particulière de scientifique. Mais c'est vrai que dans la plupart des rédactions, c'est plus qu'une hémorragie, c'est une fuite.
Mm-hmm.
Puisque, par exemple, dans la mienne, Pleine Vie, eh ben, d'ici 4 semaines, à la fin de la période de la clause de session, il n'y aura plus de journaliste ou un journaliste. Donc il faudra que ça fonctionne autrement, mais c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres magazines du pôle femme, sur le pôle star où il y a Téléstar, Télépoche et Closer. Enfin, c'est vrai qu'on estime, nous, les représentants du personnel, qu'il y a la moitié des journalistes peut-être, vont partir. Avec une crainte pour ceux qui restent, c'est qu'est-ce que vont devenir les titres, évidemment. D'ores et déjà, on peut prévoir que dans le pôle femme, il y aura des externalisations, et que pour les autres titres, ça va être une marche avec beaucoup moins de personnel.
Très bien. Est-ce qu'il faut que vous nous expliquiez, il faut que vous expliquiez aux auditeurs de France Inter ce que c'est qu'une clause de cession. C'est-à-dire que les conditions ont été des conditions particulières, et c'est propre au droit de la presse, proposées aux journalistes pour pouvoir partir là, suite au rachat du titre par Reworld Media, des titres par Reworld Media.
Oui, les journalistes ont une condition particulière pour partir, qui est celle d'obtenir un mois de salaire par année d'ancienneté. Et donc, ils partent tout en décidant eux-mêmes de partir. Ils partent dans des conditions d'un licenciement. Et donc, ce qui veut dire que quand vous avez travaillé 15 ans dans l'entreprise, c'est à peu près la moyenne des journalistes du groupe, eh bien, vous partez avec 15 mois de salaire. Bon, pour autant, je réfute le terme d'aubaine qui nous est servi par la direction. C'est absolument pas un effet d'aubaine. Vous savez que les statistiques du chômage en journalisme, c'est à peu près un quart de gens qui sont au chômage. Et donc, évidemment, pour des journalistes qui ont souvent 50 ans, qui ont beaucoup d'ancienneté, retrouver un travail sera quasiment impossible. Donc, ça va être se reconvertir et essayer de travailler comme on peut dans un métier qui aujourd'hui fait beaucoup travailler les auto-entrepreneurs ou les sociétés de contenu qui travaillent d'ailleurs pour Reworld pour produire du contenu à bas coût.
Justement, Yves Corteville, il faut que vous expliquiez également à nos auditeurs la réputation. C'est plus qu'une réputation, il y a aussi des faits avérés de vos repreneurs.
Ben, notre preneur Reworld Media, ben, à vrai dire, personne ne le connaissait il y a un an, hein, quand nous on a appris qu'il y avait la possibilité d'être racheté donc il y a un an, date anniversaire, par ce groupe. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Enfin, en fait, je m'en un peu, depuis quelques semaines on en parlait à la direction, puisque la presse en avait fait écho, en lui disant mais c'est quoi ce groupe qui était tout petit, hein, qui possédait quelques titres qu'il avait racheté, soit à très bas coût, soit pour des titres, des groupes comme Lagardère qui se débarrassaient de leur titre, donc à l'euro symbolique, et la direction disait oh, mais vous inquiétez pas, ces gens-là ils sont tout petits, ils vont jamais vous avaler, nous on vise la progression et la croissance, le développement, et ben, quelques semaines après qu'il nous ait dit ça, évidemment il signait un accord pour vendre à Reworld. Donc Reworld, c'est un fonctionnement très particulier, il faut aller sur leur page web, hein. C'est une part question de presse, c'est branding et performance, un objectif, la conversion pour les annonceurs. Bon, ça donne le ton, hein, souvent on comprend pas très bien ce qu'ils nous disent, ils nous parlent de marque, mais jamais de titre, on ne sait pas trop vers où ils vont, et c'est un des graves problèmes d'ailleurs qui se pose aux salariés, c'est qu'est-ce que vont devenir les titres, puisqu'ils ont externalisé quasiment tous les titres qu'ils ont acquis au fil des années, Marie-France, les titres Lagardère en 2014, ils en ont fermé aussi, comme Billet Pariscope. Donc c'est des, pour nous, c'est des gens qui ne visent qu'à une chose, c'est une sorte effectivement de performance à court terme, c'est-à-dire de faire des produits en les externalisant au plus bas coût, mais en aucun cas qui visent à quelques qualités éditoriales. À vrai dire, on pense qu'ils ne lisent pas nos titres et qui ne vise qu'à une chose, c'est se débarrasser au plus vite des journalistes.
Voilà, je précise d'ailleurs que les sept principaux directeurs de la rédaction du groupe, hein, Mondat Dory France, sont déjà tous partis, ont déjà tous annoncé leur départ. Du coup, il y a plus de contre-pouvoir au sein du groupe, il y a plus vos patrons, il y a plus vos figures clés pour vous protéger. Et ce que je vous propose, Yves Corteville, c'est qu'on continue de suivre ce dossier, puisque la fin de la clause de cession approche et qu'au terme de cette clause de cession, dans quelques jours, on pourra faire un bilan complet de ce qui reste comme effectif à vos côtés pour continuer de faire vivre ces titres. Je vous remercie beaucoup de ce témoignage sur France Inter ce matin. Au revoir.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Sandrine Rigaud, mon invitée, a enquêté pour Cache Investigation sur les hommes et les femmes prolétaires de tous les pays qui travaillent pour le compte de la nette économie. Vous commencez par le business, Sandrine Rigaud, en pleine expansion de la livraison de nourriture à domicile. Pourquoi? Parce que au moins ces livreurs, eh bien, on les connaît, on les voit, ils sonnent à nos portes. Vous traiterez ensuite d'autres types de travailleurs qui, pour le coup, sont complètement ignorés de nous, complètement invisibles. Alors, c'est une plongée, cette enquête qui sera diffusée ce soir, dans le droit du travail. Vous voyez, un livreur Deliveroo ou Uber, ce sont les grands géants du secteur, n'est pas un salarié. D'ailleurs, quand on s'adresse à lui, on soigne le vocabulaire pour ne jamais laisser penser qu'il est un salarié.
On ne recrute jamais.
Qu'est-ce qu'il faut dire à la place de recruter?
On met en place un partenariat ensemble.
On dit une activation pour un recrutement. Pour le salaire, on parle de chiffre d'affaires. Et pour le contrat de travail, on parle de partenariat. De la même façon, quand on s'adresse aux coursiers, la consigne, c'est de ne jamais leur dire « vous devez faire » ou « il faut ». Il faut toujours laisser une sorte de suggestion. Enfin, voilà.
Évidemment, parce que si le travailleur est salarié, il a le droit au droit. du salarié, Sandrine Grégo.
Effectivement, ce soir, en fait, dans le cache d'investigation qui est diffusé sur France 2, ce qui nous a intéressé, c'était l'écart entre la sophistication des ouais. applications qu'on nous vend, notamment commander son repas sur Deliveroo ou Uber Eats, et puis une régression sociale concernant les travailleurs et un retour à une certaine forme de travail du 19e siècle, en fait. Ces gens-là, les livreurs, mais aussi les gens qui sont payés pour former des intelligences artificielles, ce sont des gens qui sont payés à la tâche. Mm-hmm. Les livreurs sont payés à la course. Donc, c'est un retour au tâcheron du 19e siècle, sans congé, sans droit du travail, sans vacances.
Et sans droit de grève. Ça va vraiment très très loin. Un livreur n'a pas intérêt à protester parce qu'il porte sur lui, voyez-vous, un système de géolocalisation. Vous avez arraché une interview très laborieuse à l'un des représentants de Deliveroo en France.
Nous n'identifions pas les grévistes en France. Si c'est avéré, nous condamnerons bien entendu cette pratique.
D'accord. Alors on va même aller plus loin parce que le même responsable demande dans un autre document, et là vous allez voir que c'est assez clair, de constituer des dossiers contre les manifestants. Alors regardez ce document, vous allez le voir avec moi. Merci beaucoup. Je pense qu'on tient nos leaders, c'est ce qui est écrit ici au tout début. Peux-tu checker pour tous ces noms, commande jamais livrée et donc volée, et plus loin, tout ce que tu peux trouver et qui ne les arrange pas.
C'est la voix d'Élise Lucet. Bien entendu, vous avez bénéficié d'une fuite, 6000 pages de mails internes à l'entreprise pour mettre le doigt sur ce qu'on veut cacher absolument.
Tout à fait. En fait, les livreurs ont le droit de faire grève. C'est un droit qui est reconnu. En revanche, ce qu'on a découvert avec cette fuite de documents, c'est que Deliveroo, quand des livreurs manifestent, ce qui a été le cas cette année, ce qui était le cas l'année dernière, peuvent utiliser des techniques et avoir recours à la géolocalisation pour savoir qui manifestait. Et ce qu'on a vu dans ces documents, c'est que clairement, ils voulaient savoir qui manifestait. Ils essayaient même de constituer une liste noire de grévistes. Et on a interrogé un juge, un ancien magistrat à la chambre sociale de la Cour de cassation, qui nous a confirmé que c'était des pratiques extrêmement graves.
C'est ça, c'est quand même une atteinte au droit de grève, on est bien d'accord, une entrave même au droit de grève.
Alors, Deliveroo nous explique qu'aucun livreur n'a été licencié, enfin c'est pas le terme, mais viré suite à ces manifestations. Il faut savoir que cette année, il y a un livreur, on n'a pas enquêté sur ce cas-là, mais il y a un livreur qui explique avoir été déconnecté du site Deliveroo suite à sa participation au mouvement de grève de la fin de l'été.
Forcément, dans ce monde-là, une rupture de contrat, ça s'appelle une déconnexion. Un livreur à vélo travaille, Sandrine Rigaud, à un rythme d'enfer. Ça, vous l'illustrez très bien dans l'enquête de ce soir. Courant derrière des bonus, dans ce langage-là, on dit des challenges. Confidence de deux anciens managers.
Pas un jour où il n'y a pas un accident, que ce soit le plus minime ou le plus grave. Coursier, aujourd'hui, il n'y a pas un coursier qui ne se fait pas renverser en vélo par une voiture. Et beaucoup des accidents qu'il y a, c'est pendant des challenges.
Est-ce que le GPS d'Uber Eats est adapté au vélo?
Alors, en fait, le GPS Uber Eats est basé sur un parcours voiture.
Et le siège est au courant?
Ah oui, oui. Ils le savent.
Là, c'est édifiant.
Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est que quand j'ai commencé l'enquête et que je suis allée voir des livreurs, beaucoup ont intégré en fait ces codes. Donc finalement, les bonus ne les choquaient pas. Ils étaient plutôt contents d'avoir des bonus parce que ça arrondissait un petit peu leur somme à la fin de la journée, ce qu'ils gagnaient. Et donc, il a fallu faire travailler Grégoire, qui est un journaliste de la rédaction, Grégoire Huette, pour comprendre vraiment comment se passait ce travail avec la plateforme qui guide un petit peu tout son quotidien, cette pression aux bonus qui est permanente.
D'ailleurs, on le voit, il est totalement exténué, il frôle l'accident en permanence, il y arrive très bien le premier soir, il s'essouffle totalement au bout d'un mois, et à la fin, les bonus, il les a jamais. Il pédale, il les a jamais.
Bah non, et puis plus Uber promet des bonus, plus il y a de livreurs qui arrivent et plus c'est compliqué à réaliser. Donc effectivement, il y a une pression en permanence puisqu'on est payé à la tâche. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Et donc pour aller le plus vite possible, on respecte pas forcément le code de la route, on grille les feux rouges et voilà. Donc ça expose les livreurs à énormément de risques. Il a fallu aller en Belgique pour avoir des statistiques parce qu'en France, ces statistiques n'existent pas. Et la rare statistiques qui existent en Belgique montrent que 40% des livreurs qui travaillent sur cette plateforme sont touchés par des accidents du travail, sachant qu'une grande majorité ne déclare même pas ces accidents parce que de temps en temps ils tombent et ils se relèvent immédiatement parce qu'il faut enchaîner course après course.
Alors la net économie a besoin d'une main d'œuvre colossale. On commence seulement à comprendre que tout ne se robotise pas comme ça, que tout ne s'automatise pas comme ça, que plus les activités se numérisent, plus naissent avec ces activités de nouveaux travaux et avec ces nouveaux travaux de nouvelles manières de travailler. L'intelligence artificielle, c'est absolument fascinant parce que vous avez réussi à rendre ça très concret pour nous. Eh bien, voyez-vous, les logiciels n'apprennent pas tout seuls. Il faut répéter à l'infini des tâches pour qu'ils intègrent des réflexes. Vous avez rencontré Sandrine Rigaud, ces hommes et ces femmes qui font ça pour quelques dollars par mois, témoignage de Jared.
Là, vous avez un exemple. La requête, c'est ravioli au fromage. Les deux réponses qu'on vous propose, c'est pâte bio au fromage ou pâte à réchauffer au micro-ondes. Comme ce ne sont pas des raviolis, je dois répondre qu'aucune des deux réponses n'est pertinente.
Ça sert à quoi de faire ça ?
À mon avis, c'est pour améliorer un algorithme. Comme ça, quand quelqu'un va sur son ordinateur et il cherche un produit, l'algorithme lui propose quelque chose qui correspond vraiment à sa recherche.
Vous avez gagné combien ?
15 centimes.
Pour combien de temps ?
Une demi-heure.
Il faut que vous racontiez ce que font ces hommes et ces femmes dans le monde entier. Là, vous les avez interrogés aux États-Unis. Ils cliquent toute la journée pour reconnaître, par exemple, des produits ou pour entourer des humains sur des photos. Pourquoi ?
Alors, je ne savais même pas que ça existait en commençant.
Mais personne l'enquête ne sait que ça existe.
Ouais, ça a été vraiment une découverte de l'enquête. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on appelle le machine learning. Donc, c'est apprendre à une machine à partir d'exemples. Donc, par exemple, pour apprendre à une voiture autonome à conduire, il faut lui apprendre ce qu'est un piéton. Pour apprendre ce qu'est un piéton, il faut lui montrer un piéton des milliers, des millions et même des milliards de fois.
Et pour ça, ce sont des humains qui le font.
Exactement.
En cliquant toute la journée sur un ordinateur.
Il y a des gens qui sont payés à la tâche quelques centimes. Ce sont des pailles de misère pour entourer des piétons sur des images ou alors pour identifier la meilleure réponse à une question sur un moteur de recherche comme le fait Jared. Enfin, ce sont des tâches dont on ne soupçonne même pas l'existence. Quand j'en ai entendu parler la première fois, c'était avec une chercheuse qui m'expliquait qu'elle faisait du micro-travail sur un ordinateur, des petites tâches payées et qu'elle devait répéter inlassablement la même phrase, la même commande. Et elle a réalisé au bout d'un moment qu'elle était en train d'entraîner un aspirateur intelligent reconnaître des voix.
Vaut aussi pour entraîner des drones tueurs pour l'armée américaine. Vous parlez avec une femme extrêmement émouvante. C'est une américaine. Elle vit isolée dans le Maine avec ses trois enfants. Il y a une région où il n'y a pas de boulot. Elle travaille 8 heures par jour à cliquer sur ce genre de choses. 5 jours par semaine. Elle gagne 250 dollars par mois. Là aussi, elle est travailleuse indépendante.
Totalement. Bah, c'est ce que l'entreprise lui fait croire, en fait. C'est qu'elle est travailleuse indépendante, qu'elle a la liberté de choisir ses horaires. En fait, elle n'a pas la liberté. Elle doit travailler de chez elle et c'est le seul travail qu'elle peut faire. Et ce qui est fou, en fait, c'est le cynisme, vous en avez parlé au début de l'émission, de ses employeurs, comme Lucas Bivald, qui est le patron de Figurate, une entreprise sur laquelle on a beaucoup enquêté, qui explique aujourd'hui que grâce aux nouvelles technologies, vous pouvez diviser le travail, embaucher quelqu'un, le faire travailler 10 minutes, et le payer et le virer ensuite sans avoir besoin de
comment
de
vous remercier. Les avez trouvés, ces gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, dont on ignore même l'existence?
C'est extrêmement difficile à trouver. Ça a été, je pense, la plus grande difficulté de l'enquête, parce qu'en fait, ces gens-là ne travaillent pas dans des usines, donc on ne peut pas aller les attendre à la sortie du boulot. Personne ne les représente, ils n'ont pas de délégué du personnel, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de syndicat. Ils sont très méfiants. Il faut savoir qu'ils passent leur vie derrière des ordinateurs et que quand on les contacte comme journalistes, voilà, ils ne peuvent pas imaginer qu'on puisse s'intéresser à eux. Donc quand je suis arrivée chez Dawn, par exemple, qui vit dans le Maine, elle m'attendait avec un FaceTime. Son petit ami était à l'autre bout du fil. Il voulait s'assurer que j'étais pas un tueur en série ou un cambrioleur.
Ouais.
Voilà le niveau
de méfiance
de ces travailleurs-là.
Voilà, et je laisse nos auditeurs découvrir toute la fin de votre enquête, une plongée en immersion chez Facebook, où là aussi, c'est plus que de la méfiance, c'est carrément de la paranoïa et des menaces. Merci beaucoup Sandrine Rigaud, Cache Investigation, au secours mon patron Simon est un algorithme est diffusé ce soir sur France 2. Ali Rebéi, très en forme, avec encore un formidable sujet.
Êtes-vous hypocrite?
Eh ben voilà,
quel hypocrite êtes-vous?
On l'est tous un petit peu.
Un petit peu, mais l'éventail est large entre l'hypocrisie sociale, admissible, et puis l'hypocrisie malveillante. C'est-à-dire, devant vous, je vous dis que je vous adore, alors que par derrière...
Allez, Oust.
Allez, 01 45 24 7000.